Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Est-ce que tu sais comment a été fondée Taïwan? Est-ce que tu connaissais les cultures aborigènes de Taïwan? Est-ce que tu savais que Taïwan c'était une super destination farniente, qu'il y avait plein de temples, qu'il y avait des musées grandioses et que les Taïwanais étaient des dingues de thé? Alors oui, en voyant le titre de ce podcast, tu t'es peut-être dit « Oulala, pourquoi j'ai cliqué là-dessus » mais je te rassure, t'as fait le bon choix. Je vais pas t'expliquer comment devenir riche, non, ça serait trop beau. Ce que je vais t'expliquer, c'est pourquoi Taïwan est une superbe destination à découvrir en Asie, même si les Français n'y connaissent généralement rien du tout. En fait, j'ai été à Taïwan en 2019, j'ai passé 9 jours sur place et j'ai été assez surpris parce que c'était juste sublime. C'était un mélange entre la Chine, mais en beaucoup plus facile, le Japon en très organisé mais en beaucoup moins cher, et Hong Kong puisque la nuit, il y avait des néons absolument sublimes. Je n'ai passé que 9 jours à Taïwan et du coup, je ne suis pas vraiment la personne experte de la destination et j'ai donc fait ce podcast sous forme d'interview avec Vincent.
C'est qui Vincent ?
Vincent, c'est un Français installé à Taïwan depuis de nombreuses années. Je l'ai rencontré à Taipei pour faire un Taïwan Safari. Alors, vous connaissez les safaris, c'est la même chose qu'au Japon. C'est une visite guidée de Taipei comme un local avec un photographe français. Mais Vincent propose aussi des voyages assez uniques grâce à son agence Curious Taïwan. En fait, Vincent, c'était la personne absolument parfaite pour parler de Taïwan. Vous allez voir pendant l'interview, on va mélanger mes expériences avec sa connaissance absolument dingue de Taïwan. Je vais essayer de mélanger cela pour vous faire découvrir Taïwan, mais aussi pour répondre à des questions assez pratiques. Par exemple, est-ce qu'on peut voyager à Taïwan lorsqu'on parle pas chinois ou est-ce que c'est cher de visiter Taïwan? Bref, j'espère que vous allez apprécier cette interview et d'ailleurs, je crois que le train arrive en gare.
Bonjour à tous, nous vous rappelons que ce train sera direct jusqu'à Taipei et qu'il ne fera pas d'arrêt sur le chemin. Profitez bien du voyage.
Bonjour Vincent.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs du podcast?
Eh bien écoute, Vincent, j'habite à Taïwan, je suis guide à Taïwan, j'ai aussi une agence de voyage, ça fait à peu près 7 ans que je suis là maintenant, et je suis avec toi aujourd'hui pour t'expliquer la beauté de Taïwan, même si tu l'as déjà vu un petit peu.
Ouais, alors je suis déjà venu à Taïwan, on avait adoré ce que tu nous avais proposé aussi. Avant qu'on commence à parler de Taïwan en général, est-ce que tu peux expliquer toi comment t'es arrivé tout simplement à Taïwan, parce que c'est pas courant comme destination?
C'est pas courant. Alors moi, j'étais au Japon, à Tokyo. J'ai passé beaucoup d'années au Japon, où je travaillais au début, puis ensuite j'étais guide. Et j'ai rencontré ma femme à Tokyo, ce qui est inhabituel, rencontrer une Taïwanaise à Tokyo et te marier. Mais j'ai rencontré ma femme et de fil en aiguille, on a remigré vers ses terres à elle, à Taïwan. Alors ça s'est fait progressivement, hein. Mais on a commencé en 2013 et puis ça a dû 2013-2014 et puis ça a dû se concrétiser vraiment en 2016, je pense.
C'est quoi du coup? Alors tu vis à Taipei, au nord de Taipei. C'est quoi les différences entre Taïwan et le Japon, par exemple, vu que tu habitais au Japon avant et que vous avez dû changer?
Alors il y a quelques différences culturelles, mais dans le fond, il n'y a pas un gap si énorme que ça, parce que quand même, Taïwan, ça a été colonisé 50 ans par les Japonais. De fait, on retrouve des administrations, des transports publics, enfin, on retrouve plein de points communs avec le Japon, c'est juste que la forme est différente. Tokyo, c'est super moderne, c'est très organisé, les gens sont limite robotisés. Taïwan, c'est beaucoup plus humain, il y a de la culture chinoise, hein, quand même, de fond, qui est présente. Les gens sont très empathiques, ils vont venir discuter rapidement. Il y a un petit foutoir un peu plus que quand même à Tokyo, hein, je ne vais pas te le cacher. Mais ça reste propre, ça reste super agréable, super organisé. Les trains, ils sont à la seconde près à l'heure en général. Donc on retrouve hein, plein de points communs qu'on fait que ce n'était pas difficile de se réadapter, à part la langue.
T'as parlé de colonialisme, t'as parlé de Chine, t'as parlé de Japon.
Ouais.
Taïwan, en gros, c'est où? Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est au milieu de quoi? Parce que je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas situer où est Taïwan, tout simplement.
Alors, ouais, Taïwan, c'est au sud-est de la Chine, c'est une île, hein, bien sûr, mais aussi, en fait, ça touche quasiment le Japon, parce que les dernières îles du Japon, notamment Ishigaki et Yonaguni, c'est à même pas 50 km de nos côtes. Donc, on est vraiment au sud-est de Guangzhou, du Fuzhou, du Fujian, et on est une île bien sympathique.
D'accord. Si tu devais présenter Taïwan, donc là, on a parlé où est-ce que c'était, comment tu es arrivé à Taïwan. Ouais. Je pense que certains de nos auditeurs peuvent à peu près localiser où est-ce que c'est, entre le Japon et la Chine. Si tu devais présenter Taïwan rapidement, ça ressemble à quoi comme destination? Parce que généralement, je pense que quand on est français et qu'on parle de Taïwan, on pense au Made in Taïwan, mais sinon, on n'a aucune idée de ce qu'est Taïwan. Si tu devais le présenter rapidement, tu dirais quoi?
Ouais, c'est un peu difficile. Le Made in Taïwan, ça colle encore alors qu'on n'en est plus là du tout. Mais bon, Taïwan, c'est quoi? Grosso modo, c'est une île qui fait 5 à 6 fois la Corse en taille, qui a 70% de massifs montagneux avec de la très haute montagne, avec des sommets jusqu'à quasiment 4000 mètres. Donc, grosso modo, c'est une île extrêmement nature, tropicale. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une île avec des usines, des machins partout. Il n'y a que 5 villes majeures et 70% de la surface, c'est de la nature, de la haute montagne, des gorges de marbre blanc. On a aussi des bords de mer superbes où tu as pu aller, toi, notamment à Kending avec... Ouais. Bah vraiment la plage idyllique que tu peux imaginer, le sable blanc, les tortues de mer, l'eau limpide. Donc, c'est très contrasté sur un très petit territoire.
Ok, super. Alors, si je peux juste rajouter un point pour Taïwan. Taïwan, en gros, il y a une montagne au milieu, c'est ça?
Ouais.
Donc, tu as vraiment deux versants d'un côté à l'autre.
Ouais, il y a plusieurs chaînes de montagnes, mais en fait, grosso modo, okay. Tu as la partie ouest qui est à peu près plate, mais sur une bande de 50 à 100 km. Et tout le reste de l'île, c'est de la haute montagne. La côte est, il y a très, très peu d'espace où les villes et les gens ont pu s'installer parce que c'est très à pic, c'est très alpin. Il y a des falaises qui tombent dans l'océan Pacifique immédiatement.
Quand tu as dit le Made in Taïwan, c'est plus trop ce que c'est vraiment maintenant Taïwan. Pourquoi est-ce que les Français connaissent pas du tout cette destination? Parce que c'est vrai que, alors moi je vis au Vietnam depuis de nombreuses années, quand en Asie on dit on va à Taïwan, c'est hyper bien vu. Tout le monde dit, waouh, tu vas à Taïwan, un peu comme en France, on dirait, ouais, tu vas au Japon, quoi. C'est des voyages qui font rêver les gens. Pourquoi est-ce qu'il y a, pourquoi c'est pas connu? Pourquoi il y a cette image encore du Made in Taïwan alors que dans la réalité, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on voit, quoi?
Ouais, bah déjà on n'a pas de connexion culturelle, Taïwan avec la France extrêmement peu, contrairement au Japon. Le Japon, les gens ils vont connaître de France parce qu'il y a eu les mangas, les dessins animés, enfin toute la culture japonaise est très bien exportée en France. Mais en France on n'a pas de connexion avec Taïwan, à part avoir acheté dans les années 80 des produits basse qualité en plastique dégueu. Bah il y a pas de lien, donc Taïwan c'est inconnu en Europe ou très peu connu. C'est plus connu en ce moment parce qu'on a très bien géré la crise du Covid ou la bataille un peu avec la Chine, mais en dehors de ça, ouais, il y a peu de liens. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses à voir et c'est un pays que les Français apprécient beaucoup en général.
Ok, ouais, c'est vrai que généralement, Taïwan, on en parle beaucoup plus d'un point de vue géopolitique que d'un point de vue des voyages. Si les voyageurs français, en gros, ils viennent à Taïwan, alors il y a des vols directs, si je ne dis pas de bêtises, entre Paris et Taipei?
Ouais, il y a plein de vols directs, il y a Air France qui fait ça, il y a Eva Air, on arrive, c'est à peu près 11 ou 12 heures de vol, vol direct, et puis c'est des vols qui sont pas, en temps normal, pas très très chers. En économie, tu arrives à trouver du 600, 700 euros sans escale, avec escale encore moins cher que ça.
Ça reste abordable, mais on parlera des conseils pratiques et du budget un peu plus tard. Okay. Comment est-ce que tu présenterais peut-être les 3 ou 4 destinations iconiques? Peut-être en parler pour que les gens s'imaginent, parce que c'est vrai que lorsqu'on dit Taïwan, ils ont du mal à vraiment sentir ce qu'on peut faire sur place. Un peu comme on pourrait dire pour Instagram, on voit les photos, ça donne envie de voyager. Qu'est-ce qu'on dirait pour Taïwan si on devait présenter les quelques destinations les plus connues?
Bon, on va peut-être commencer par Taipei, qui est la capitale et le point d'entrée de toute façon pour tous les voyageurs qui viennent d'Europe. Taipei, c'est paradoxalement, c'est la capitale, mais c'est une des villes les plus jeunes de l'île. C'était pendant longtemps un comptoir commercial qui avait été développé par les Hollandais. Donc, on va retrouver sur tout le bord de rivière les comptoirs commerciaux avec les vieilles structures en briques, en bois, les petits marchés, les choses comme ça. Mais ça reste la capitale, une ville relativement moderne avec des hauts bâtiments, notamment la Taipei 101, qui est une des plus grosses tours d'Asie, qui a été la plus grande tour d'Asie, et qui n'est pas juste en plus une tour comme une tour Eiffel ou la Tokyo Tower, c'est vraiment 101 étages de bureaux, dont un observatoire, mais c'est vraiment un bâtiment qui est utilisé, qui est vert en plus, avec des technologies incroyables. Donc Taipei, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh ben, on va y trouver des petits marchés de rue très populaires, beaucoup de temples, mais en même temps, la modernité avec des bâtiments d'architecture moderne, très design, un mix.
Il y a Ximending.
Ximending, voilà, un quartier super jeune, où on va faire du shopping qui ressemble assez à Shibuya au Japon ou en Corée, Corée du Sud. Il y a des quartiers aussi comme ça qui sont connus à Séoul. Donc, super actif, lumineux, avec des LED partout, ça clignote, il y a de la vie. Donc, c'est une petite ville qui se fait très bien, mais qui est super contrastée.
Ouais, t'en penses quoi d'ailleurs de tous les musées? Parce que généralement, lorsqu'on regarde, lorsqu'on commence à préparer un voyage pour Taipei, je te relance là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup, il y a énormément de musées avec beaucoup de culture.
Beaucoup de musées et d'excellente qualité en plus, vraiment. Alors bon, il y a le plus connu qui est le musée du Palais, qui regroupe en fait une très grande partie des trésors de la cité interdite en Chine. Alors la plupart des gens ne savent pas, mais Taïwan, en fait, il y a eu Chiang Kai-shek qui a perdu la révolution contre Mao dans les années 1945 à 47 et qui s'est réfugié à Taïwan. Et en partant de Chine, il a quand même récupéré énormément de trésors parce que quitte à s'exiler sur l'île voisine, autant pas partir les poches vides. Et ce musée du Palais, il regroupe les trésors qui ont été récupérés lors de la retraite de Chiang Kai-shek vers Taïwan. C'est un énorme musée et on peut voir en permanence 3% des collections qui ont été collectées, protégé, on va dire, de la révolution culturelle. Donc, c'est un super musée, mais aussi dans l'art moderne, on va trouver le musée d'art moderne, le musée des beaux-arts avec des exhibitions qui changent en permanence. C'est super actif, la vie culturelle est très, très active. Il y a des choses surprenantes. Le musée des beaux-arts, notamment, on pourrait presque le comparer à un petit MoMA à Taïwan parce qu'il y a des trucs super.
Et après Taipei, du coup, quand les gens passent quelques jours, qu'ils ont vu toutes ces facettes, qu'ils ont visité un musée, qu'ils ont vu des temples, qu'ils ont vu toute cette nouvelle vie, ces quartiers lumineux presque qui vont ressembler à Shibuya ou au Japon ou à d'autres zones de Corée du Sud, comme tu as dit. Après, généralement, ils vont où? C'est quoi leur seconde étape?
Alors, la plupart du temps, les gens, il y a des incontournables quand même de l'île, ils vont aller aux gorges de Taroko, qui est sur la partie est de l'île, parce que c'est un endroit nature magnifique. C'est de la haute montagne, c'est des gorges extrêmement encaissées, comme je disais plus tôt, en marbre bleu. Donc là, il y a une rivière qui passe au milieu. La rivière, elle a des couleurs incroyables. Il y a des ponts de singes qui traversent, des trails qui ont été faits à main d'homme dans des grottes. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté, si tu veux faire de l'aventure, mais en même temps qu'il soit balisé, sans un grand danger, sans besoin d'une condition physique importante. Taroko, c'est génial parce que c'est à 3, 4, 5 heures de Taipei, okay. C'est facilement accessible, tout est bien tracé et ça te permet de vivre une aventure tropicale vraiment sympathique.
Quand tu dis que c'est balisé, c'est-à-dire que n'importe qui peut en faire, même des gens qui peuvent marcher qu'une ou deux heures et des gens qui peuvent randonner pendant plusieurs jours? C'est comment?
Taïwan, il y a beaucoup de trails qui ont été faits par le gouvernement parce que pendant longtemps, c'était un pays qui n'était pas très riche. Donc, le gouvernement a aménagé des trails pour que les gens puissent en profiter. C'est des trails qui font 2, 3, 4, 5 kilomètres maximum, qui sont faciles d'accès avec peu de marches en général. Alors, ce n'est pas toujours vrai, hein, mais c'est annoncé devant les trails la difficulté. Mais la grande majorité des trails de Taroko sont accessibles avec une condition physique minimale.
D'accord, ok. Donc ça, ils y passent généralement deux jours, quelque chose comme ça?
Ouais, une à deux journées. Il y a pas mal de gens qui vont même, quand les gens ont des agendas un peu serrés, ils vont y passer la journée et puis rentrent le soir. C'est pas ce que je recommanderais, mais ça se fait beaucoup. Et ça permet d'avoir ce côté nature incroyable très rapidement.
Donc, ils ont vu la grande ville, ils ont vu le côté moderne, ils voient les paysages incroyables avec tous ces points de vue depuis les gorges de Taroko. Après, ils vont où généralement?
Alors, ça dépend, mais la plupart, ils vont quand même descendre à Tainan. Tainan, qui est l'ancienne capitale de Taïwan, qui est la plus vieille ville de l'île, et qui a beaucoup plus de petites ruelles. Il y a un côté moitié japonais, moitié ère coloniale d'Asie. Donc, c'est très piéton. On en profite beaucoup. Il y a les plus vieux temples de l'île. Il y a plein de petits commerces. Il y a un côté très bobo aussi, avec des cafés dans des vieilles maisons restaurées. Enfin, il y a cette ambiance assez jeune et assez bobo à Tainan que les gens apprécient beaucoup.
Ouais, alors nous, on a passé une journée et demie lorsque j'ai voyagé à Taïwan, à Tainan. On avait vraiment beaucoup adoré avec ma femme. Et comme tu dis, en fait, on a quasiment tout fait à pied. Je crois qu'on a juste pris un bus à un moment pour aller visiter les anciens, là où étaient arrivés les Néerlandais à l'époque, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, le Anping.
Ok, bon voilà, tu connais mieux que moi, tu te rappelles. Et à Tainan, on avait vraiment beaucoup aimé. C'est ce que tu dis, c'est beaucoup de petits temples. Il y a énormément de gastronomie aussi, mais bon, ça, on en reparlera un peu plus tard. Tainan, c'était très facile à visiter. Il y avait un temple de Confucius. On se baladait facilement.
C'est vraiment la ville avec laquelle les Français auront le plus d'affinité parce que ça correspond vraiment à ce qu'on recherche quand on voyage dans un pays étranger. C'est atypique et en même temps, il y a du charme, c'est piéton. Contrairement à d'autres villes comme par exemple Kaohsiung ou Taichung qui ont beaucoup plus de circulation, des scooters un peu partout, il y a ce côté brouhaha. Tainan, c'est calme, on s'y promène, on en profite, on s'arrête dans un petit café. Il y a ce côté très attachant. Ouais.
Tu as dit qu'il y avait des grosses villes, donc ça c'est Taichung et Kaohsiung, c'est ça ?
Ouais, ça c'est des
grosses
villes.
Pourquoi il y a ce côté brouhaha ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas des trucs où il faut aller quand on est voyageur ?
Si, il y a des choses superbes à aller faire là-bas, mais c'est pas forcément les premières choses à faire. C'est des villes beaucoup plus actives, avec plus de gens, plus de circulation, et qui ont été construites plus récemment. Donc, c'est des grands boulevards très larges, alors que Tainan, comme c'est une vieille ville, c'est des petites ruelles où tu peux pas avoir trois files de voitures. Il y a qu'une file de voitures, de scooters. Donc, c'est plus calme. Il y a moins cet effet grosse masse de transport.
Ouais, du coup, ce que veulent les Français, quoi. Être au calme, comme tu disais, et éviter peut-être un feu.
Ouais, mais Kaohsiung, il y a aussi plein d'endroits très calmes, etc. Mais il y a le lac du Lotus, il y a les pagodes du Tigre et du Dragon qui sont très connues. Enfin, il y a de l'histoire, il y a des choses à voir aussi. Mais c'est une ambiance plus active. Ça va être moins de la méditation, de la contemplation. Ça va être un peu plus actif. Kaohsiung, faut un scooter, faut se balader en scooter, en voiture ou en transport public pour en profiter. Alors que Tainan, tu te poses au milieu, tu fais tout à pied. Il n'y a aucun souci avec ça.
Tu disais pour Kaohsiung, exactement, nous avec ma femme, on n'avait pas pris de scooter. On a dû prendre un taxi, le métro, c'était une ville immense et on avait pas mal perdu de temps à se balader. On n'avait pas tenté l'option scooter, mais ça aurait peut-être été une bonne idée.
Ouais, c'est très large, il y a besoin de transport parce que les points d'intérêt, ils sont dispatchés un petit peu partout dans la ville qui est très très grande.
On n'a pas parlé de plage. Taïwan, c'est quoi ? C'est plutôt un truc comme le Japon ? On n'y va pas trop pour les plages ou on peut aller pour les plages ? Qu'est-ce qu'il y a comme option ?
On peut y aller, bien sûr, que pour la plage. Et d'ailleurs, il y a plein de gens du sud-est asiatique, notamment, qui viennent juste pour profiter de ça. Alors après, ça va être surtout dans le sud. On a des îles, hein, c'est marrant, mais on est une île nous-mêmes. Et on a aussi plein de petites îles qui sont superbes parce que c'est des îles coralliennes avec des récifs de coraux incroyables qu'on n'attendrait pas. Et puis des colonies de tortues de mer, des dauphins, des baleines. Enfin, c'est les tropiques, hein, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des choses superbes. Mais le plus facile d'accès, ça serait Kending, qui est tout au sud de l'île. Kending, où tu es allé aussi, je crois. Ouais. Et c'est sable blanc, de l'eau superbe. En plus, il y a un côté très Jurassic Park, parce que, comme j'ai dit, Taïwan, c'est quand même très alpin. Il y a beaucoup de montagnes. Tu as des hautes montagnes très vertes qui vont côtoyer l'océan. Et donc, comme il y a très peu de bâtiments, il n'y a pas d'habitation dans le sud, il y a assez peu de villes, c'est très, très nature. Donc là, tu prends un scooter, tu te balades autour des parcs nationaux et des côtes, et c'est magnifique.
Ouais,
c'est
Kenting, on avait adoré avec ma femme. J'ai dit que Kaohsiung, on avait un peu galéré pour visiter. Kenting, ça nous avait mis une énorme claque. On avait hésité longtemps avant d'y aller. Au final, on y allait, et comme tu disais, on avait pris notre scooter, chacun un scooter, et on se baladait sur les routes. C'est assez vallonné, mais ça reste raisonnable, hein. Et en fait, vous vous baladez le long de la mer. La mer, c'est des rochers, des grandes falaises. T'as dit Jurassic Park. Moi, j'ai pensé, ça me rappelait un peu Bali dans l'idée, avec ces montagnes en arrière-plan. Et la mer, c'était vraiment sublime. Kenting, c'était waouh. Mais à Kenting, il y avait un peu de plongée, mais est-ce qu'il y a d'autres spots, par exemple, si on veut plonger? Tu as parlé de tortues, je crois. C'est pas à Kenting les tortues, non? Ou alors j'ai peut-être loupé.
À Kenting, il y a des tortues, bien sûr. Ouais. Il y en a beaucoup. Mais le spot le plus connu où il y a une très grosse colonie avec plus de 1000 tortues qui sont là à l'année, c'est la petite île de Xiaoliuqiu, qui est en face de Kaohsiung. On peut y aller, en bateau en 30 minutes à partir de Gongguan ou Donggang, je sais plus, Donggang je crois. Et en 30 minutes tu es sur cette petite île qui fait on fait le tour, hein, en scooter en une demi-heure quoi. Je crois qu'elle fait 12 km quand on fait le tour. Mais qui est magnifique, Xiaoliuqiu. Et là tu peux plonger, il y a des épaves, tout ce que tu peux imaginer comme sport nautique existe là-bas, c'est vraiment développé que pour ça.
Si vous avez beaucoup de mal avec les noms, ce que je peux comprendre, je mettrai les noms directement sur l'article de blog, donc cherchez le podcast en relation avec le numéro, parce que sinon je pense qu'on va perdre 99% des gens. Ok, ça a l'air super cool. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait surpris à Taïwan. C'est aussi pour ça que je voulais absolument faire un épisode de podcast, absolument la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle, c'est la diversité de Taïwan. Je pense que quand on parle, on le sent vraiment, mais on passe d'une grande ville à un parc national avec des montagnes sublimes. Après, on repasse sur une autre ville plus petite avec plein de temples. Ça m'avait assez impressionné, toute cette variété. Et alors qu'on n'avait même pas pu, nous, aller voir d'autres endroits. Alors, ma femme est vietnamienne. Du coup, quand elle regarde directement en vietnamien sur Google, elle tombe parfois sur d'autres endroits. Je sais qu'on n'était pas allé à... Je crois que c'est Alishan, le nom.
Ouais.
Il y a un autre lac, je crois, le lac... C'est le lac du Lotus ?
Sun Moon Lake, ouais, le lac de la lune et du soleil, ouais.
Est-ce que ça vaut le coup, ça, ou pas, si les gens viennent ? Parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup, généralement, dans les guides de voyage. Moi, je n'y étais pas allé. Hein.
On va commencer par Alishan. Alishan, c'est un parc national qui est magnifique, qui a été développé notamment par les Japonais parce qu'ils y exploitaient le bois ancien, les essences rares. Donc, il y a toujours la ligne de train qui a plus de 100 ans, qui est toujours en activité, qui permet de partir de Jiayi, qui est la ville en bas des montagnes, et de monter jusqu'en haut d'Alishan quasiment, à petit rythme, avec un vieux train qui est très sympa. Et Alishan, c'est des forêts de cèdres millénaires gigantesques, des trails incroyables, des chantés à perte de vue en escalier qui sont superbes. Donc Alishan, c'est un incontournable, je veux dire, même pour moi, mais parce que j'ai peut-être la fibre un peu plus forêt que Caillou, je mettrais même Alishan devant Taroko dans les incontournables à faire sur l'île. À savoir aussi qu'Alishan, c'est le fief de plusieurs tribus aborigènes de Taïwan, notamment les Zhou et les Bunun, qui sont des... à Taïwan, hein, on n'en a pas parlé, mais à Taïwan, il y a encore 16 tribus aborigènes culturellement très actives et reconnues, avec leur propre langue, leurs écoles, leur façon de vivre. Et Alishan, c'est un de leurs fiefs, donc si vous êtes un peu curieux de ce côté culturel, c'est un incontournable, absolument. Et derrière, on avait parlé, donc tu m'as dit Sun Moon Lake, qui est par contre là une super destination touristique. Alors moi, je suis moins emballé par Sun Moon Lake, mais ça reste un paysage magnifique quand même. C'est un très beau lac qui a une couleur verte. Les Japonais l'appelaient d'ailleurs le lac de Jade avant à cause de ça, avec plusieurs temples, etc. Si vous aimez faire du vélo, allez à Sun Moon Lake, parce que tout est aménagé pour faire du vélo. Et on peut en faire le tour. Enfin, faut démoler un peu quand même, parce que ça monte, ça descend. Mais si vous aimez vous balader tranquille à vélo et voir des paysages différents, Sun Moon Lake, c'est une superbe destination aussi.
Et donc là, tu es en train de me dire que si ma femme allait écoute ce podcast, elle va avoir envie de me tuer parce qu'on n'est pas allé à Alishan, c'est ça ?
Peut-être, mais tu pourras couper ou traduire différemment.
Ok, je pense que je vais le laisser. Sur le site de ton agence, on voit, tu viens d'en parler à l'instant, tout ce qui est culture aborigène. Comment on peut organiser ce genre de choses ? Qu'est-ce que c'est la culture aborigène de Taïwan ? Puisque c'est vrai que moi, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Lorsque je pense à Taïwan, je ne pense pas à ces peuples, à ces ethnies un peu différentes. Quelle est la différence avec les, entre guillemets, les Taïwanais, j'ai envie de dire normaux ? Alors, ce n'est pas normaux, évidemment, mais c'est quoi vraiment la valeur ajoutée ?
La grosse différence, bon, les Taïwanais, grosso modo, c'est des gens qui sont venus d'un peu partout, mais notamment de Chine au fil des siècles. Les aborigènes, ils étaient là à l'origine, par définition. Donc, c'est des tribus qui ont été protégées, notamment grâce aux montagnes de Taïwan. Je vous ai dit, il y a des montagnes alpines très prononcées. Ce qui fait que pendant très longtemps, tous les colonialistes qui sont arrivés, les colonisateurs qui sont arrivés, que ce soit les Chinois, les Hollandais, les Espagnols, enfin, on a eu, tout le monde a passé un petit peu par ici, eh ben, ils n'ont jamais pu accéder à ces populations qui arrivaient à bien se protéger dans les montagnes. Et donc, ce qui fait que bah, ces peuples-là, qui sont encore un demi-million de personnes hein, au total à Taïwan, ils ont pu garder leur culture, leurs us, leurs coutumes, leur façon de vivre, même si ils sont pas fermés au monde. Hein. Il y a des ponts qui se sont faits, la technologie est un peu arrivée aussi. Enfin, ça vit en harmonie, mais ils ont gardé comme ça ce lien très fort à la nature. Alors pour rencontrer ça, pour rencontrer ces gens-là, c'est plus difficile. Bon, moi, je peux vous y emmener parce que j'ai des liens, bien entendu. Mais si vous voyagez tout seul, ça va être un peu plus compliqué d'accès parce qu'ils sont pas très ouverts au tourisme. Au tourisme de masse notamment. Par contre, il y a quelques endroits, il y a quelques points de centres culturels qui sont dédiés à la culture aborigène, notamment on parlait d'Alishan, mais il y a les feux à Alishan, je te donnerai le nom, où ils ont fait un village traditionnel culturel pour faire découvrir aux étrangers ben, qu'est-ce que c'est la culture Zhou, par exemple.
Et c'est quoi du coup en fait, ils vont être vachement avec les arbres, avec la nature, ils vont être animistes, ils vont manger des choses particulières, ils ont des costumes particuliers, ça se passe comment ?
Ouais, ça dépend. Comme je t'ai dit, il y a 16 tribus, ils ont chacun vraiment des choses différentes. On va avoir des sociétés matriarcales où les chefs sont toujours des femmes. On a des triumvirats avec un chaman, un chasseur, un chef. Enfin, c'est très varié, c'est très différent. Bien sûr, ils ont des connexions à la nature qui sont plus importantes parce que leur environnement, c'est la forêt. Et puis quand on dit forêt, c'est de la forêt tropicale alpine. Donc, c'est pas des environnements qui sont toujours faciles d'accès. Ils ont au fil des siècles, des millénaires, ils ont su s'adapter, prendre leur marque. Ils connaissent absolument toutes les plantes, ils utilisent la nature à bon escient. Mais en même temps, comme je te disais, ben, ils sont connectés aussi à la technologie d'aujourd'hui. Donc il y a des villages avec de l'électricité, des choses comme ça. Faut pas imaginer des mecs isolés comme en Amazonie. C'est plutôt des gens qui ont réussi à prendre la plupart du temps le meilleur parti des deux mondes. Donc on prend la technologie moderne et en même temps on garde des valeurs, beaucoup des tribus, avec une communauté soudée. On va faire des festivals pour les récoltes. Enfin, on va garder cette culture de fond, ces traditions très actives, même pour les jeunes.
Et toi, du coup, tu as les contacts directement avec Curious Taïwan, ton agence, pour aller voir quelques personnes que tu connais, c'est ça ?
Moi, j'ai de la chance parce que ma femme, en fait, grâce à elle, elle fait partie de la tribu de Zhou indirectement. Et j'ai eu des contacts avec ces gens-là qui sont plutôt difficiles d'accès généralement. Donc, quand on y va avec des clients, mais même nous, on y va très fréquemment, bah, on y va en tant que famille. Donc, il y a un accueil qui est un peu différent que si tu arrives avec ton sac à dos ou même en voiture. Parce que tu auras un accès à la vitrine du village, mais tu ne pourras pas, par exemple, rentrer dans les forêts ou explorer la forêt ou aller voir dans les vieux villages parce que ces montagnes-là sont privées. les territoires aborigènes appartiennent toujours aux aborigènes et non pas aux Taïwanais ou à Taïwan.
Génial, ça a l'air super intéressant.
Mais il y a des choses à voir quand même. Il y a des musées, il y a des endroits à côté de Taipei, notamment Ulai, qui va être tribu Ataya, qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres tribus du centre de l'île.
On a aussi parlé du centre de l'île, alors il faut que je raconte quelque chose aux personnes qui écoutent ce podcast. Mais généralement, entre les pays, entre les gens qui habitent dans différents pays, on a tendance à comparer les paysages. C'est à qui aura les plus belles rizières en terrasse, c'est à qui aura les plus beaux chantés, c'est à qui aura les plus belles photos. Et je sais que Taïwan, c'est vachement important pour le thé, puisque Taïwan aussi produit directement du thé au Vietnam.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler du thé? C'est quoi la culture du thé à Taïwan? Est-ce qu'ils en font pousser? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire?
Alors le thé, bah, ça, c'est très structurant dans la société. Hein. Tout le monde boit du thé en permanence, c'est un code social, on invite quelqu'un, on va boire du thé. Le thé, ça a été importé notamment par les Japonais, ça a été développé par les Japonais sous l'ère coloniale. Ils ont fait venir des maîtres de Chine pour développer le houlong, qui est une sorte de thé. Et comme on a un relief alpin qui est très diversifié, bah, ça nous permet de produire quasiment tous les types de thé qui existent. Et donc on a énormément de petites plantations de thé partout avec des maîtres qui recherchent à faire de la qualité parce que à Taïwan, juste pour te donner des petits chiffres, mais on produit 12 000 tonnes de thé par an et on en importe 120 000 tonnes, notamment du Vietnam. donc parce qu'il faut faire les bubble tea, il faut boire le thé de tous les jours, mais le thé de qualité, les 12 000 tonnes, on ne l'exporte pas, on le garde pour nous, tellement on n'en a pas beaucoup. Par contre, effectivement, il y a énormément de plantations de thé en escalier qui sont superbes, tu sais comment c'est, hein, avec des dessins, des montagnes, c'est magnifique. Ouais. Et ça, vous le trouverez facilement. Bah, à Alishan, il y en a beaucoup, mais à Meishan, qui est juste à côté. Dans toute l'île, tous les massifs alpins de l'île sont constellés de champs de thé ici et là.
Et si je peux ajouter quelque chose sur le thé, moi, donc, quand j'étais allé à Taïwan, on avait évidemment fait une journée avec Vincent pour découvrir Taipei différemment. Et Vincent nous avait emmené voir une amie qui est experte du thé.
Oui.
On avait passé, je ne sais pas, peut-être une heure. Et elle nous avait expliqué plein de choses sur les différents types de thé, sur comment était le business du thé, notamment les comparaisons avec le Sri Lanka, avec l'Inde. Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense, en tant que Français. C'est cool de savoir comment on va récolter du thé, mais comment on le vend, comment on l'exporte, comment ça se passe, quelle est la différence de qualité,
ouais,
comment on compare avec d'autres pays. Et ça, je dois avouer que ça nous avait vraiment marqué avec ma femme, en plus de pouvoir goûter du thé qui était exceptionnel. Parce que c'est vrai que parfois, le thé, ça a un goût un peu fade quand c'est du thé de mauvaise qualité vietnamien. Comme tu viens de dire. Mais
j'ai
c'est
pas
vrai,
dit que c'était de mauvaise qualité, mais on produit pas tout à fait de la même façon. À Taïwan, on va avoir que des petites plantations et résultat des courses, on peut pas mécaniser. Donc c'est tout fait à la main. Il y a pas de pesticides la plupart du temps parce que ça vaut pas le coup quand tu as 100 mètres carrés de mettre du pesticide ou de l'engrais, etc. On est une terre tropicale, donc avec des sols très riches. Donc l'été, ils sont faits à la main, ramassés à la main, travaillés à la main, transformés à la main. Toutes les étapes d'oxydation, etc. Tout est fait à la main. On mécanise pas et ça donne un produit artisanal de qualité. Mais du coup, un produit artisanal de qualité qui est un petit peu cher par rapport à nos voisins, disons chinois, pour pas attaquer le Vietnam, où ils vont ramasser à la tronçonneuse. Hein, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est quoi du coup, dans l'idée, le thé est pas devenu... Est-ce que c'est devenu un produit, pas de luxe, mais un produit haut de gamme, le thé taïwanais? Ou comment c'est perçu dans la société? C'est un cadeau qu'on offre? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça?
Alors, on va le boire. On en boit tous les jours du thé taïwanais pour les amis, etc. On a des examens publics avec des prix pour les meilleurs thés, qui ceux-là peuvent coûter très cher. Et du coup, ont un côté prestigieux du fait de la médaille. C'était là, c'était primé. Tu vas les offrir pour faire un cadeau. Mais sinon, dans le quotidien, non, c'est des thés de bonne qualité qu'on va boire avec la tata, le tonton, le grand-père, le voisin, peu importe. C'est fait pour être consommé. Hein. Un Taïwanais, il consomme énormément de thé à l'année. Moi, je ne sais pas, mais on doit acheter 3 ou 4 kilos de thé à la maison sans problème par an.
Moi, il y a une destination que je n'avais pas trop aimée qui était Jufen. Alors, Jufen, pour expliquer, c'est une petite ville qu'on va visiter qui est au nord de Taipei. On y va à la journée depuis Taipei. Et en fait, ma femme voulait absolument y aller puisque c'est un endroit qu'on voit pas mal sur Instagram. C'est une ville en fait où il y a pas mal de lanternes et on a une vue sur la mer et c'est notamment très beau de jour. Mais moi, ce que j'avais fait avec ma femme, c'est qu'on y était allé. Donc, dans la journée, en aller-retour, on avait pris un bus, comme tout le monde. On avait visité Jufen sous la pluie. Et franchement, on avait détesté Jufen. On avait trouvé ça, mais nul, nul. C'était très touristique. Franchement, il pleuvait, il faisait pas beau. C'était pas vraiment intéressant. Pourtant, lorsqu'on en avait parlé ensemble, tu m'avais dit « Ah, mais Jufen, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça ?» Et on avait été un peu dégoûté. Pourquoi est-ce que tu penses que on a loupé Jiufen.
À Jiufen, le gros problème qu'il y a, c'est une très belle destination. Hein, déjà, c'est une ville minière. Quand les Japonais sont arrivés à Taïwan, ils ont exploité notamment l'or et le charbon sur ces montagnes-là. Donc, il y a toute une ville minière qui s'est créée, qui est à flanc de montagne. Donc, c'est que des petites ruelles, des maisons en pierre. Il y a un côté très charmant pour ça. Le problème, c'est que c'est un spot Instagram par défaut. Donc, tout le monde va y aller pour faire sa photo. Puisque la nuit, il y a les lanternes. Il y a aussi la légende qui dit que Jiufen aurait inspiré Hayao Miyazaki pour son film Le Voyage de Chihiro. Donc, il y a toute une espèce de légende urbaine sur cette ville qu'il faut absolument voir et qui a des gros avantages. Mais en fait, si tu suis juste le groupe de touristes qui y va, ils vont faire les quatre spots à photo et repartir parce que la majorité des gens qui vont à Jiufen, ça va être beaucoup des Chinois quand les frontières sont ouvertes. Et eux, ils n'ont pas le temps, ils ont une heure. Donc, ils arrivent, ils font les trois spots, ils font les photos, ils achètent la spécialité gastronomique locale et ils repartent tout de suite. Donc, la difficulté de Jiufen, c'est pourtant très riche. Il y a des tunnels, il y a des vieux temples, il y a plein de petites choses à voir. La mine aussi est encore visitable. Les tunnels de mine, les bâtiments japonais qui étaient là à l'époque sont toujours en état et sont visitables. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas suivre juste les panneaux touristiques et il faut faire un peu plus de recherche avant d'y aller pour savoir qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que tu vas éviter aussi, parce que c'est vrai que la ruelle principale, c'est quand les frontières sont ouvertes, c'est 3 mètres de large et il y a des foules de gens qui essayent d'avancer pour acheter des cadeaux. Donc, il y a ce côté-là qui est un peu moins sexy pour les Français. Mais dès qu'on sort de cette rue principale, il y a des merveilles, il y a des pépites un peu partout qui sont plus difficiles à trouver. Donc, il faut se préparer en amont, chercher qu'est-ce qu'on va faire. Et moi, je recommande Jiufen de prendre une nuit, de prendre une petite guest house dans le centre-ville du village pour avoir un point de chute. Et le soir, à partir de 19h, 20h, il n'y a plus un seul touriste. La ville est aléatoire, tu peux faire des superbes photos. Et puis surtout, tu as toutes ces lanternes chinoises qui sont éclairées jusqu'à 22h, 23h, qui donne une atmosphère féerique à l'endroit.
Quand t'en parles, on s'y croirait, vraiment. Est-ce que du coup, tu as parlé du tourisme chinois, est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent visiter Taïwan? Est-ce que c'est problématique pour les Européens? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent éviter, peut-être des destinations, des endroits? Qu'est-ce que ça a comme impact d'un point de vue du tourisme?
Les Chinois, quand les frontières sont ouvertes, puis avant un peu aussi les batailles, parce qu'on est un peu plus en tension en ce moment avec la Chine, et donc ils nous avaient fermé leur manne touristique, mais...
Ceci est un message du contrôleur du train. Vincent vient tout juste de parler du flot de touristes chinois qui avait diminué, donc je me permets juste de faire une petite aparté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine contrôle étroitement où vont ses touristes, et lorsqu'il y a des soucis dans un pays, elle peut totalement couper le robinet de touristes à destination. Donc ce qui s'est passé par exemple avec la Thaïlande, puisqu'en Thaïlande, il y avait des problèmes de sécurité avec des tours en bateau, ils avaient eu 2-3 gros accidents, donc ils ont perdu quelques centaines de Chinois, il y a vraiment eu des décès, c'était assez important. Du coup, la Chine se fâche, demande évidemment des garanties à la Thaïlande, et peut diminuer du coup le nombre de touristes. Et ça, vu qu'on parle de millions de touristes chinois, ça a un gros impact économique. Donc c'est pour ça que la Chine, parfois, peut avoir ce rôle de couper le robinet pour une destination, tout simplement parce qu'ils ont décidé d'un point de vue sécurité, d'un point de vue géopolitique, s'il y a des tensions, si on, je sais pas, on leur imposait des droits de douane ou ce genre de trucs, bah eux, à l'opposé, ils peuvent dire « Ok, pas de problème », et du coup, hop, il n'y a plus de touristes pour vous. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, on repart avec Vincent qui va continuer à... Il va continuer à faire quoi, Vincent? Eh oui, il va continuer à parler des touristes chinois à Taïwan. C'est parti!
Les Chinois, en général, ils ne posent pas des problèmes dans le tourisme parce qu'ils sont encadrés par des Taïwanais et il y a des règles à respecter. Donc, il n'y a pas de problème d'attitude. C'est des gens qui respectent très bien les règles. Il n'y a aucun souci. Ils ne vont pas jeter leurs papiers partout, ce genre de choses. Donc, par contre, on les retrouvera toujours sur les 4 ou 5 spots majeurs de l'île parce que, comme je le disais, ces gens-là, ils ne viennent pas longtemps. Ils viennent en avion. On est à 1 heure de la Chine, hein, même pas, hein, les plus proches. Moins d'une heure et ils sont arrivés. Donc ils viennent 3-4 jours et ils vont faire Jiufen, Shefen, de Taipei, ils vont faire les 4 ou 5 spots majeurs. Donc là, oui, sur les horaires de 9h-17h, vous avez beaucoup plus de gens à se promener. Mais ce n'est pas un souci dans la majorité des destinations.
Ouais, parce que du coup, ils suivent le parcours classique et toi, tu as juste à changer de rue et directement, il n'y a plus personne.
Ouais, c'est ça. Et puis, il ne reste pas longtemps. Donc c'est sûr que si tu vas à Jiufen à 9h30, tu as tous les bus qui arrivent en même temps jusqu'à 11h. Il y a de la foule. C'est pas, si tu n'aimes pas la foule, ce n'est pas le moment où il faut y aller. Mais si tu y vas avant 9h, il n'y a personne. Si tu y vas après 19h, il n'y a personne. Et c'est vrai pour Taroko, c'est vrai pour Sun Moon Lake dont on parlait, qui est une grosse destination pour les Chinois parce qu'il y a toute une légende, etc. Donc, tous ces points-là où ils vont beaucoup aller, il faut juste organiser son heure d'arrivée pour ne pas coïncider avec l'arrivée des bus. Mais c'est pas gênant, c'est pas, faut pas imaginer ça comme à Paris, Versailles ou le Louvre, où t'as des foules qui arrivent, des troupeaux complets à fond de cale qui te poussent pour voir la galerie des miroirs.
Ou les galeries Lafayette. C'est vrai que moi, quand j'étais à Taïwan, donc on y a passé un peu moins d'une dizaine de journées, le seul endroit vraiment où on a été embêté par les touristes, c'était à Jufen. Pour tout le reste, même sur le mémorial de Sharp, comment il s'appelle déjà ?
Chiang Kai-shek.
Chiang Kai-shek. Il faut, ouais, que je la laisse absolument lorsque je publie le podcast, c'est beaucoup trop drôle. C'est un nom, ouais, compliqué honnêtement à dire, mais on n'avait eu aucun souci du point de vue touriste. Même à Tainan, il n'y avait aucun problème. À Genting, il n'y avait absolument personne. Évidemment, à l'endroit le plus connu de Genting, il y a forcément quelques personnes qui viennent faire des photos, mais rien qui puisse être un problème. Et puis de toute façon, il y a toujours, dans toutes les destinations qui sont iconiques et incontournables, il y a toujours un endroit où il y a un peu de monde, mais bon, on fait avec.
Oui, mais bah, Jofen, c'est vraiment du fait du village, parce que c'est des toutes petites ruelles, c'est à flanc de montagne, il n'y a pas d'espace. Il y a beaucoup de monde et il n'y a pas d'espace, donc ça pose ce souci-là. Ou Pingxi, qui est très proche et où les gens vont beaucoup pour lancer les lanternes, qui est un tout petit village où en fait on envoie les lanternes au ciel pour faire ses vœux. Bah, c'est pareil.
Ça vaut le coup, ça ?
Ça vaut le coup dans la journée en allant à Jofen. Tu fais Pingxi, Jofen. C'est très beau, puis il y a une superbe cascade qui est juste à côté du village aux lanternes, qui est facilement accessible. Donc non, ça vaut le coup, mais c'est très touristique et c'est des petits villages avec des rues de 3-4 mètres de large. Donc, quand tu arrives avec 4 ou 5 bus qui sont arrivés en même temps, bah, y a un effet de foule quand même, de masse qui est important. Mais tout le reste, la plupart des endroits, ils sont bien adaptés, c'est large, c'est spacieux. Donc, comme tu disais, très vite, Chiang Kai-shek, le mémorial, c'est géant. La place, elle est énormissime. Donc, même s'il y avait 2000 personnes, tu t'es toujours très, très tranquille pour visiter.
C'est exactement ça pour nous. Honnêtement, on n'avait eu aucun problème. Et Taïwan, il y avait beaucoup moins de monde, et même beaucoup moins de monde que plein d'endroits au Vietnam. Ou lorsqu'on se voyage au Vietnam ou dans d'autres pays, hein, on est allé dans le nord de la Thaïlande, c'était la même chose. Je pense que Taïwan était peut-être le voyage où on a vu le moins de touristes. Il n'y avait quasiment aucun occidentaux. Ça, c'est un truc important, je pense, qu'il faut mentionner. C'est aussi pour ça qu'on en parle dans le podcast. C'est qu'il y a juste très peu de gens qui viennent, alors que l'endroit est incroyable. Mais on est aussi des Français. Moi, là, quand tu m'en parles, j'ai qu'une envie, c'est de revenir, notamment Alishan, qui a l'air vraiment sublime, avec les forêts. Quand on parlait, on s'y croyait.
Bah, viens, on ira ensemble.
Cool. Qu'est-ce que ça donne niveau nourriture, Taïwan ? Parce que niveau nourriture, je sais que nous, on est français, donc la nourriture, c'est super important. Taïwan, d'un point de vue restaurant, d'un point de vue gastronomie, c'est quoi ? C'est aussi chinois ? C'est japonais ? C'est entre les deux, c'est quoi ?
Il y a tout, c'est très fusion, il va y avoir énormément de choses. Comme je t'expliquais, on a un passé avec des Espagnols, des Hollandais, des Japonais, des Chinois. Enfin, il y a eu beaucoup de monde à passer et chacun a laissé son empreinte, même les Français. Hein, à la fin du 19e, on est venu 2 ans à Taïwan un petit peu. Et d'ailleurs, on retrouve du nougat sur les marchés du fait de ce petit moment historique. Donc, tu veux du nougat à Taïwan, sur tous les marchés, il y a du nougat. Mais au niveau de la cuisine, bah, on trouve de tout. Tu vas avoir aussi bien du 3 étoiles Michelin, cuisine très typée taïwanaise, qui est quand même plutôt chinoise de base, mais qui a été revue avec le goût local un peu plus sucré, un peu moins dans les extrêmes. À Taïwan, il n'y a pas de nourriture épicée, il n'y a pas des goûts particulièrement dérangeants pour les Français. On va arriver sur un palais qui est très acceptable pour les Français, très agréable même, avec des spécialités d'un peu partout, de toute la Chine, mais aussi des trucs japonais, des spécialités coréennes. On trouve un peu moins vietnamienne, mais la gastronomie Taïwan, c'est ultra connu. Je veux dire, tous les Asiatiques, ils viennent à Taïwan pour manger. C'est la gastronomie. C'est l'île qui est ultra réputée pour ça. Donc, faut pas hésiter. Vous serez pas surpris. Il y a pas des choses bizarres. Très, très peu de choses bizarres.
C'est à base de riz, c'est quoi ?
C'est beaucoup à base de riz, mais il y a aussi des pâtes. Bon, tu vas pas trouver des pommes de terre forcément, hein, c'est pas trop la spécialité. Mais oui, effectivement, du riz, des pâtes, tu vas avoir beaucoup d'enrobés, des baozi, des xiaolongbao, qui sont des raviolis chinois des fois, mais ce genre de choses, des dumplings, des choses cuites à l'étuvée, à la vapeur. Mais au niveau des goûts, c'est jamais très épicé, c'est toujours un équilibre très... très élégant en bouche, c'est rarement difficile, ouais.
Ils ont aussi des dim sum, non ? Je crois que c'était là où est-ce que tu m'avais...
Ouais, c'est ça, dim sum, ouais. Xiaolongbao, c'était ça.
Je viens juste de me rappeler maintenant, on était allé manger dans un restaurant de dim sum absolument excellent, et d'ailleurs, tu nous avais expliqué comment manger les dim sum, parce qu'il y a quand même une petite technique à avoir. Je crois qu'il faut la percer d'abord pour qu'on ait d'abord le jus en bouche,
ouais.
Et ensuite on peut manger.
Oui, parce qu'à Taïwan, en fait, c'est ce qu'on appelle les xiaolongtanbao, qui sont c'est des dim sum, mais la spécialité à Taïwan, c'est qu'on va rajouter très souvent une petite soupe de gingembre à l'intérieur. Et donc, dans ton dim sum, il y a de la soupe qui est très chaude et tu ne peux pas le manger comme ça tout de suite, sinon tu vas te brûler. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans la cuillère avec les baguettes, on le perce pour que la soupe qui est à l'intérieur, elle se refroidisse beaucoup plus vite au contact de la cuillère et que tu puisses le manger ensuite.
Ça me donne faim quand on parle. Je me rappelle, ce repas, on avait mangé de façon... C'était excellent. Et d'ailleurs, on avait essayé de retourner au même restaurant. Quelques jours plus tard, on cherchait un restaurant. On se disait, mais attends, c'était vraiment super bon. Il faudrait qu'on y retourne. On avait commandé. Alors, en Chine, on commande avec, en mettant sur le menu, c'est ça, il y a la liste du menu et on met le nombre de commandes qu'on veut. C'est partout ça. Comme ça à Taïwan ?
Ouais, quasiment partout. Tu prends ton papier, tu prends ton menu. Alors, des fois, il y a des photos, des fois, il n'y a pas de photos. Il y en a quand même de plus en plus dans les grandes villes, mais la tradition, c'est juste un papier noir et blanc avec assez peu de traduction hein, quand même. Donc, utilisez votre Google Trad, ça marche quand même vachement bien. Mais voilà, t'as ton papier, tu fais ta commande, tu mets tes chiffres et puis tu payes, ça coûte très peu cher et c'est toujours fait maison. C'est rarement des trucs comme on peut avoir, des centrales, les gens ils font eux-mêmes. C'est des petits restos et on y va pour ça. Les Taïwanais sont extrêmement exigeants sur la qualité. Donc non, c'est une bonne expérience manger à Taïwan.
Oui, je me rappelle aussi d'une soupe de bœuf, des beef noodle soup, qui était vraiment excellente.
Ouais. Le mien, c'est du bœuf qui est cuit pendant de nombreuses heures, un peu comme le bœuf bourguignon. Donc, tu as une texture qui est extrêmement tendre, c'est goûteux, il n'y a pas de fourchette. Donc, à la baguette, tu peux le couper en deux sans problème.
Oui, ça, c'est agréable parce que parfois en Asie, c'est vrai qu'ils ont tendance à cuire et recuire le bœuf, notamment en Asie du Sud-Est. Ils le font cuire pendant des heures et c'est du plastique. Mais là, à Taïwan, on avait vraiment super bien mangé. Est-ce que tu peux aussi nous parler des marchés de nuit? Alors, pourquoi je veux parler des marchés de nuit? C'est qu'en fait, quand on prépare son voyage à Taïwan, on voit des marchés de nuit absolument partout. C'est toujours mentionné dans les incontournables. À faire. Il y en a un peu partout dans le pays. J'ai l'impression qu'il y en avait même à Kenting pour nous. Pourquoi est-ce qu'on va sur les marchés de nuit? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi le... Il y avait beaucoup de Taïwanais qui venaient. Ce n'était pas des choses pour les touristes. Pourquoi cette spécialité de marché de nuit à Taïwan?
Ouais, alors les marchés de nuit, tu en trouves partout, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, même dans des villages, entre guillemets, il y aura toujours deux, trois échoppes. On y va, c'est pour manger après le dîner, parce qu'il n'y a jamais assez de repas dans la journée. Donc, on n'y va pas vraiment pour faire un dîner complet, mais on y va pour grignoter des petits trucs qui sont bons. On va trouver énormément de choses, autant du sucré que du salé, mais très souvent, ça va quand même être des fritures, ça va être des choses faciles à préparer, parce que c'est des petites roulottes, entre guillemets, donc ils ne peuvent pas faire de la cuisine complexe. Donc, ça va être du poulet, du shen suji, du poulet frit avec des petits aromates. Il va y avoir énormément de choses aussi, du bœuf grillé, c'est assez amusant. On va retrouver le très fameux chow tofu dont tout le monde parle tout le temps, et qui au final très marginal.
C'est quoi le chow tofu?
On dit c'est du tofu qui pue. En anglais, on dit stinky tofu parce que quand il cuit, comme c'est un tofu qui a été fermenté, il sent un peu mauvais quand même. Donc, quand tu arrives dans.
C'est bon ou pas? Parce que quand on parle, ça ne donne pas trop envie.
C'est bon, mais à l'odeur, c'est difficile pour les Français parce que c'est une odeur que tu ne connais pas et qui est très forte. Et donc, quand tu arrives dans un marché nocturne, tu sens ça, tu fais « Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça embaume sur 200 mètres, hein, c'est un truc merveilleux. Mais au goût, c'est pas du tout mauvais. Alors, ce n'est pas mon préféré, mais ce n'est pas aussi horrible au goût qu'à l'odeur. Ouais. Mais les gens sont marqués par ça. Donc, on va trouver ce genre de choses. Beaucoup de sucré, des fruits, beaucoup de fruits aussi, parce qu'on produit énormément de fruits. Si vous aimez les mangues, les choses comme ça, Taïwan, on en a des kilos pour rien du tout. Donc, les marchés vont offrir aussi pas mal de fruits. Mais les spécialités locales, le marché nocturne, c'est aussi l'endroit où, bah, tiens, la spécialité locale de jiai, de machin, tu vas la trouver au marché nocturne et les gens, ils vont y aller pour goûter particulièrement ça. Les bubble tea aussi, ça sort de là, hein, plus que d'un shop. Capignon sur rue, les bubble tea, c'est un truc du marché.
Ouais, c'est vrai que nous, les Taïwanais, j'avais l'impression qu'ils mangeaient tout le temps. Du coup, c'est vrai qu'il y avait des arrêts qui étaient connus pour les snacks. Alors, on avait déjà les adresses pour les restaurants. Donc, il fallait goûter cette soupe de bœuf ou tel restaurant à côté d'un marché. Et il y avait aussi des recommandations pour des snacks à 4 heures après le dîner. Enfin, c'est assez dingue, non? Ils mangent tout le temps comme ça?
Tout le temps. Taïwanais, ils mangent en permanence. Ma femme en a le meilleur exemple. Dès que tu peux grignoter un petit machin, c'est génial. On s'arrête, on grignote. Alors après, c'est souvent des plats qui ne sont pas forcément gras. Tu ne prends pas du poids avec ça, mais c'est vraiment, ils ont ce côté de gourmandise. Allez, on s'arrête, on va goûter du undun ou une soupe de scie ou un petit machin de ça. Tiens, ici, c'est la spécialité de ça, de taro. Allez, on va manger une petite boule de taro. C'est un plaisir, quoi. Tu sais, comme je pense les Vietnamiens aussi, beaucoup le sud-est asiatique et l'Asie en général, les gens adorent manger, adorent goûter des nouvelles choses. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du plaisir de voyager.
Ouais, c'est vrai.
Quand c'est pas le motif numéro un du voyage, hein, ce qui est assez fréquent quand même. C'est pour ça que tu trouves du snack partout, parce que les gens, ils adorent grignoter, picorer des petits trucs tout le temps. Les restos, ils sont ouverts de 6h à minuit sans problème. Alors, à partir de 22h, il n'y a plus qu'un seul type de resto qui est ouvert, mais toute la journée, aucun problème, tu manges tout et n'importe quoi, ça ne ferme pas.
Ouais, c'est vrai que tu en parlais, la nourriture taïwanaise est hyper connue en Asie. Moi, à Hanoï, il y a des restaurants taïwanais, des restaurants qui font des hot pots, des restaurants qui font tout type de nourriture. C'est vrai que je pense en Europe, ce n'est pas connu du tout, la nourriture taïwanaise, non ? On voit rarement des restaurants taïwanais où il y a quand même, non ? Tu sais ou pas ?
Ah, je suis assez mal placé parce que moi je suis parti il y a très longtemps quand même. Non, je sais pas, mais je sais que les bubble tea notamment, ça a été le grand phénomène d'un moment. Je sais qu'à Paris, parce que je suis plusieurs cuisiniers taïwanais qui ont des restaurants à Paris, je sais qu'il y a quand même cette cuisine qui est en train de se développer de plus en plus.
Ouais, si vous le pouvez, si vous pensez à des restaurants taïwanais à Paris, n'hésitez surtout pas à les recommander aussi dans les commentaires sur Instagram, sur Facebook ou sur le blog directement. Je les ajouterai parce que c'est vrai que Taïwan, ça gagne à être connu. On a parlé de plein de destinations, on a parlé de la nourriture, on a parlé de vraiment plein de choses. Au niveau pratique, Taïwan, niveau budget, moi j'avais trouvé ça vraiment très abordable, j'avais trouvé ça hyper safe. Donc, aucun souci d'un point de vue sécurité. On ne payait pas grand-chose pour les repas, comme tu disais. Franchement, les repas coûtaient vraiment pas cher. Il y avait des vols depuis l'Europe. Il n'y a aucun défaut à venir à Taïwan. Enfin, c'est la destination parfaite ou...
Non, qu'est-ce que tu veux ? C'est presque parfait. C'est presque parfait. Non, le coût de la vie est très faible. Alors, Taïwan, c'est quand même un pays très riche. Le revenu par habitant est bien supérieur à celui de la France, de 30% supérieur. On est quasiment au niveau des Suisses, en fait. Mais en fin de compte, ce qui fait tout, c'est que le coût de la vie est pas cher. Donc, tu vas le midi manger dans une popote de quartier. Tu t'en sors pour 3, 4, 5 euros maximum en ayant le ventre complètement rempli. Si tu veux te faire vraiment un repas luxueux, 15-20 euros, tu as déjà exagéré pour la semaine. Donc, le coût de la vie, le coût d'un voyage à Taïwan est relativement faible pour ce qui est des transports et de la nourriture. Par contre, ce qui va être l'offre hôtelière, très vite, par contre, quand vous voulez du 3, 4, 5 étoiles, ça devient des tarifs équivalents au Japon ou à l'Europe en général.
Ouais, et le train, tu as parlé des transports, le train est excellent puisque le train, c'est exactement la même chose que le Shinkansen japonais, si je ne dis pas de bêtises.
Bah, c'est le Shinkansen japonais hein, qui relie le nord au sud, grosso modo, uniquement sur la côte ouest. Mais vous pouvez traverser l'île de Taipei-Tainan, je crois que c'est 2h20, donc 500 km en 2 heures, avec la ponctualité japonaise, le confort japonais, le service, et c'est très peu cher. Je pense que le plus cher que tu puisses faire en TGV, en l'équivalent du TGV, le trajet le plus long, ça doit être 40 euros par personne.
Et il y a même un article sur le HSR, qui est le nom du train, sur le blog directement sur worldwidebreeze.net, donc n'hésitez pas, je fais ma petite promo, à aller regarder directement. Ouais, niveau budget, pour que je vous donne un exemple vraiment concret. Lorsqu'on a parlé dans ce podcast, je pense qu'on a l'impression que c'est plus entre la Chine et le Japon, le budget. Nous, à voyage équivalent, on peut comparer avec ma femme puisqu'on voyage tout le temps du samedi au dimanche suivant. Donc, on passe 9 jours à chaque fois dans la destination. À Taïwan, on a dépensé autant qu'en Thaïlande. On pensait qu'on allait se faire massacrer à Taïwan. Et en fait, le budget, du point de vue des visites, lorsqu'on était à Tainan, vu qu'on n'avait pas besoin de prendre de transport, ça ne coûtait pas grand-chose. Les restaurants, on goûtait les restaurants où il y avait vraiment beaucoup de locaux qui étaient à table. Et puis, on goûtait les plats. On avait trouvé ça excellent, d'un rapport qualité-prix incroyable. Même les logements étaient franchement abordables dans le plutôt bas de gamme. Hein. On n'était pas dans les 5 étoiles.
Au niveau des guest house, il y a plein d'offres qui sont super sympas et qui ne sont pas très chères. Il ne faut juste pas suivre les... C'est un peu comme partout en Asie, tu me diras, mais quand il y a un restaurant qui affiche en grand des cartes en anglais à la porte, ce n'est pas forcément un gage de qualité et de bon rapport qualité-prix. Donc, si tu voyages un peu comme tu fais toi, Brice, bah, effectivement, ça ne te revient à rien parce qu'un repas à 5 euros, une nuit de guest house à 25 euros ou 30, 40, tu veux faire un peu plaisir, 40 euros, tu as déjà quelque chose de très sympa. Donc,
Taipei était plus cher, ouais. Taipei était plus cher que le reste.
C'est une capitale, c'est normal. T'es plus à 60-70 euros, mais dans l'ensemble, ça reste des voyages très abordables. Faut juste s'organiser un peu en amont parce qu'il y a très peu d'informations en ligne qui soient valables. Donc, ça mérite un peu de travail en amont du voyage pour optimiser tout ça.
T'as parlé de la traduction, notamment pour les menus. Comment est-ce que c'est possible de visiter Taïwan pour des gens qui ne parlent pas chinois ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner ? Est-ce qu'il y a des applications, ce genre de choses à utiliser pour être sûr de ne pas commander évidemment le mauvais repas au restaurant ? Ou est-ce que quand tu prends le train, c'est facile ? Comment ça se passe ?
Bon, pour tout ce qui est transport public, c'est en anglais. C'est assez facile et dans toutes les gares, vous aurez toujours du personnel qui parle anglais. Et les Taïwanais sont très gentils. Donc, dès qu'ils voient un étranger, ils ont tendance à venir spontanément voir si tu as besoin d'assistance. Dès qu'ils parlent un peu anglais, ils vont venir t'aider. Il n'y a pas de difficulté à visiter Taïwan sans parler chinois. Aucun problème. Les gens sont ouverts et sont très volontaires pour aider. Par contre, c'est sûr que dès que tu sors des centres-villes et que tu es un peu dans les campagnes, trouver le mec qui parle anglais, c'est pas toujours la ressource locale. Évidente, donc c'est bien d'avoir Google Trad qui, même si c'est très très loin d'être parfait, permet d'avoir des bonnes indications, notamment les menus, les trucs touristiques, les choses comme ça. Le Google Traduction fonctionne très bien, Google Maps fonctionne très bien avec des interfaces en anglais. Booking.com, vous pouvez l'utiliser aussi, même si généralement c'est pas idéal parce que y a toujours des problèmes avec Booking.com puisque les hôtels voudraient que tu payes en avance. C'est dans les conditions, mais c'est toujours écrit en chinois. Donc tu as tendance à réserver sur Booking, ils te disent tu payes quand tu arrives, mais en réalité ils demandent une avance sur la chambre et des fois ça fait des petites tensions. Donc Booking, vous pouvez, mais avec cette petite restriction qui est parfois gênante.
Toc toc toc, c'est encore le contrôleur. Alors sur le coup, je voulais pas interrompre Vincent, donc je me permets ce petit contrôle d'étiquette. En gros, ce qui s'est passé, nous on a eu aucun problème avec tous ces hôtels, on avait tout réservé par Booking ou par Agoda à Taïwan, sauf le dernier. Et le dernier, on a plutôt eu un gros souci. En fait, c'était un hôtel un peu trendy, assez boutique hôtel, assez sympa d'ailleurs. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'on pouvait faire le check-in que de 15h à 19h. Donc il y a que 4h dans la journée où vous pouvez accéder et prendre votre chambre lorsque vous arrivez à l'hôtel. Coup de bol, on est arrivé sur les coups de 18h, donc on a pu faire notre check-in. En revanche, l'énorme problème qu'on avait, c'est que la porte d'entrée s'ouvrait qu'avec un code. Et ce code changeait toutes les 24 heures à midi et le nouveau code était envoyé sur Line directement. Ouais, alors vous savez sûrement pas ce que c'est Line. Line, en fait, c'est un logiciel de messagerie utilisé au Japon, en Thaïlande, je crois, et à Taïwan, visiblement. Et nous, évidemment, on n'avait pas Line. On ne pouvait pas ouvrir de compte sur Line puisqu'il fallait un numéro de téléphone local. Bref, on se retrouvait un peu comme dans une boucle administrative où on ne savait pas trop quoi faire. On était vraiment en stress. On avait laissé notre chambre le lendemain matin sur les coups de 10 heures. On avait quitté notre chambre, on voulait se balader. À midi, on savait que le mot de passe changeait. Donc, on se demandait, est-ce qu'il faut qu'on revienne à l'hôtel à 11h59? Bah oui, comme ça on pourra au moins accéder à nos affaires, puisque sinon il n'y aura pas de staff. Donc on a galéré, on a dû attendre que des clients qui étaient là descendent de leur chambre, qui parlent anglais, qui puissent nous aider. Donc faites attention à ça, c'était marqué sur Booking, sur la réservation, que le check-in était possible que de 15h à 19h. Donc oui, on aurait pu le voir, mais évidemment personne ne regarde, je pense. Donc faites attention à ça, vous pourriez avoir un problème entre guillemets multiculturel. Donc encore une fois, faites gaffe à Booking, faites gaffe à Agoda, faites vos réservations, mais regardez deux fois. Voilà, on repart au podcast.
Franchement, c'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses sur Taïwan. Taïwan, c'est un endroit où on rêve de revenir avec ma femme. Malheureusement, entre-temps, il y a eu le virus, donc on n'a pas pu revenir, mais c'est sur notre planning. Est-ce que, quand tu parles de toutes ces destinations, on a parlé de Taipei, on a parlé de Taroko, on a parlé d'Alishan, on a parlé de Kenting, Tainan, combien de temps il faut pour visiter ces endroits? Parce que là, on parle de plein d'endroits. Est-ce qu'il faut 2 semaines, 3 semaines, 10 jours? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour visiter Taïwan?
Alors, bon, ça dépend du rythme de chacun. Il y a des gens qui adorent visiter super speed et pas s'arrêter. Et puis, il y en a d'autres qui aiment prendre leur temps dans chaque destination. Mais moi, en général, ce que je recommande à mes clients, c'est de venir, s'ils peuvent, au moins 12-13 jours minimum pour avoir le temps d'explorer. Comme je disais, c'est très contrasté. Donc, 12-13 jours, ça permet de passer 2-3 jours là, 2-3 jours là. Tu fais 4 ou 5 spots différents en prenant le temps d'explorer parce qu'il y a toujours des perles en dehors des trucs principaux. Taroko, c'est génial. Vous allez faire les superbes trails. Ben, en fait, si vous restez une journée de plus, tu peux monter à Rerwanshan, qui est une des plus hautes montagnes autour, et voir des paysages magnifiques. Et ça te prend une journée parce qu'il faut prendre une voiture, monter un petit peu, ou aller visiter la tribu des Truku qui est juste derrière. Enfin, moi, ce que je recommande, c'est de venir au moins 12-13 jours. Et à chaque fois, plutôt que se dire on va faire Taroko à la journée, c'est se dire allez, on va aller dans la zone de Taroko 2-3 jours. On fait les spots principaux le premier jour et on se perd un petit peu avec Google Maps les journées suivantes. Et on en profite. On prend le temps d'en profiter parce que c'est pas utile de courir. Les Taïwanais, c'est des gens super cool, super relax. Vous les verrez, ils sont en claquettes, en marcel, en short toute la journée. Donc, c'est pas la peine de courir. Profitez, les gens sont ouverts. Ils vont vous parler, ils vont vous inviter à manger. Ils vont vous inviter à boire le thé, même s'il y a des problèmes de communication. Il y aura du contact humain très, très facile à Taïwan. Donc, prenez le temps de vous arrêter.
Ok, génial. Alors, c'est vrai que 10 jours, 2 semaines, ça... nous, on aurait vraiment aimé passer encore plus de temps, même 3 semaines. Toi, là, tu parles d'endroits parfois qui sont un peu compliqués, notamment pour aller voir les aborigènes. Ça a l'air d'être un peu la galère pour quelqu'un en indépendant qui ne parle pas chinois. Toi, avec ton agence, avec Curious Taïwan, tu fais quoi? Tu organises quelques jours, des voyages complets, la visite de Taipei, comment ça s'organise si les gens ont besoin de contacter quelqu'un pour vivre une expérience vraiment différente?
Nous, on est une agence de voyage, donc en fait, on fait tout. On peut faire juste une journée, on peut juste organiser le voyage en vous éditant un roadbook, etc., en faisant les réservations, en ayant que ce côté logistique, mais aussi vous accompagner une journée, deux journées, cinq journées, peu importe. On fait absolument tout, tout est possible. L'avantage qu'il y a, même pour organiser le voyage, c'est que nous, on a déjà les destinations, on connaît, on a la connaissance du pays, donc forcément, ça simplifie beaucoup. Et on vous évitera aussi les problèmes, notamment parce que Taïwan, faut savoir que c'est une île tropicale, donc il y a des typhons, il y a aussi des tremblements de terre, il y a des grosses pluies, donc il y a des moments de l'année où ce n'est pas forcément recommandé de venir.
C'est quand ?
La saison des pluies, alors avec le changement climatique, c'est toujours un peu difficile, mais en juin, en général, on ne recommande pas de venir. Juillet, août, même si tout le monde adore prendre ses vacances l'été, il faut savoir qu'il fait très très chaud. Très chaud et très humide, comme au Vietnam, je pense. Donc, si vous avez une résistance à la chaleur, il n'y a pas de souci. Mais si...
Ils viennent quand, du coup ?
L'idéal, ça va être le printemps et l'automne. C'est les périodes les meilleures parce qu'il fait encore très, très bon. Tu peux te baigner n'importe où toute l'année. À Taïwan, l'eau, elle est à 26 degrés en hiver. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais printemps, automne, ça va être les meilleures saisons où il y a le moins de monde, où la météo est excellente et où on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un peu moins cher en plus parce qu'il y a moins de monde.
Et je sais qu'il y a aussi des auditeurs du podcast qui sont parfois contre les agences. N'hésitez pas aussi à directement regarder sur le site Taiwan Safari, qui est un peu dans la même idée que les Tokyo Safari ou les Osaka Safari au Japon, puisque Vincent avant guidait à Tokyo. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais passé une journée complète avec Vincent directement à Taipei. Ça m'avait donné plein de clés pour comprendre Taïwan en général. Et je sais que je l'avais recommandé à d'autres amis après qui vivaient en Asie, qui vivaient à Hong Kong, à Singapour, qui partaient visiter Taïwan, qui n'avaient peut-être pas forcément envie de passer par une agence et en fait qui du coup faisaient une journée ou deux avec Vincent à Taipei et ils comprenaient, je prends un exemple tout bête, mais moi ça m'avait vraiment marqué comment on lançait les dés pour prier pour la bonne chance dans les temples. Et en fait, du coup...
Les bois boués pour poser des questions aux dieux.
Ouais, ça, maintenant, je le vois partout en Asie et je le comprends. Et tu nous avais expliqué plein de choses sur les restaurants, sur les marchés, comment ils fonctionnaient. Et en fait, du coup, on avait fait ça au début de notre voyage et ça nous avait donné plein d'informations pour plus tard. En fait, c'était vraiment, vraiment parfait.
Moi, ça me paraît, alors après, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est normal, mais ça me paraît au moins indispensable d'avoir une journée avec quelqu'un qui s'y connaisse. Parce que les ponts culturels entre la France et Taïwan, il n'y en a quasiment pas. Et la culture chinoise en général, même s'il y a des gens qui sont habitués, qui ont voyagé en Chine, elle est très différente à Taïwan. Il y a des codes particuliers. Donc, ne serait-ce que pour avoir les clés pour décrypter le pays pour la suite de son voyage, une journée, même une demi-journée, ça permet d'y voir plus clair pour les 13 ou 14 jours suivants, plutôt que de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? De demander aux gens autour qui ne vont pas forcément être capables de répondre ou répondre à côté. Donc voilà, c'est deux cultures différentes. Et une petite introduction est pas mal. Et j'en profite, comme on parle de ça, je suis en train de faire un guide sur Taïwan qui sera édité chez Nanika, aux éditions Nanika, et qui s'appellera « Quelque chose de Taïwan ». Donc, si vous voulez pas me contacter pour vous promener, vous pourrez toujours prendre le livre.
En termes de budget, ça donne quoi une journée avec toi à Taipei, par exemple ?
Alors, à peu près, en euros, c'est à peu près 80 euros par personne. Une journée à Taipei complète de 9h à 16h30, 17h. Et ça comprend l'accès à des gens comme par exemple ma maître T et toutes les explications, la promenade en privé, sans personne à côté.
Ouais, ça c'était vraiment génial. On avait appris tellement de trucs sur le T, ça m'avait vraiment marqué. On était passé dans des quartiers complètement paumés, on avait appris sur l'histoire coloniale, sur les maisons. On avait vraiment adoré. À chaque fois, ma femme commence à connaître les safaris, puisqu'à chaque fois qu'on part au Japon, je l'emmène pour qu'elle découvre. Et franchement, à Taïwan, on avait adoré. C'était très différent du Japon, évidemment. C'était ce mélange chinois, japonais, un peu tout. J'ai vraiment adoré notre journée.
Merci.
C'était vraiment génial, Vincent. Je pense que les gens ont appris beaucoup de choses. Quand tu parlais d'Alishan et des forêts millénaires, ça donnait vraiment envie d'y être. J'avais particulièrement, moi, adoré mon voyage à Taïwan et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, pour donner aux gens envie d'aller à Taïwan, pour même leur donner envie de juste chercher des informations, pour se rendre compte à quel point Taïwan, c'est fantastique, alors que ça ne coûte pas si cher que ça. On retrouve le meilleur monde entre la Chine, le Japon, l'Asie du Sud-Est. Tu l'as dit pour la météo, nous on était à Genting en janvier alors qu'il est censé faire froid et on était en t-shirt, en short, on menait notre plus belle vie dans le sud, il faisait vraiment chaud, donc on avait vraiment adoré. J'espère que toi aussi t'as apprécié participer à ce podcast et j'espère que ça pourra emmener plus de Français directement à Taïwan.
Un grand merci à toi et au plaisir de vous voir bientôt à Taïwan.
Merci beaucoup, bye bye, on reviendra.
Salut.
D'ici quelques minutes, nous arriverons au terminus du train à Taipei. Brice, il faut conclure, là c'est un peu long. Brice, conclue.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode du podcast. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si les interviews ça fonctionne et si vous avez tout simplement tout écouté. Si vous êtes aussi en galère du point de vue des noms, puisque c'est vrai que d'un point de vue des villes, c'était vraiment pas facile, n'oubliez pas que sur le blog worldwildbreeze.net, vous cliquez sur podcast, vous avez le numéro 3 du podcast et vous pourrez voir tous les noms avec notamment une carte où vous voyez les villes, donc Alishan, Kenting, Kaohsiung, Tainan, Taipei, Taroko. Tout ce dont on vient de parler est directement sur la page du blog. Vous avez aussi quelques liens que m'a fourni Vincent, donc pour avoir plus d'informations sur Taïwan. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas aussi non plus à vous abonner au podcast ou tout simplement à me dire si vous avez apprécié ou pas. Ça fait toujours plaisir que vous laissiez des avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pleine lune pour le prochain podcast. Donc dans 29 jours, c'est bien ça. Bye bye.